L'une de mes toutes premières interviews, bien avant la création de Volant, date de 2011. J'étais à San Francisco et j'avais eu la chance de croiser la route d'un des fondateurs de Airbnb. Si vous cherchez sur un moteur de recherche, vous verrez que je n'étais pas très doué à l'époque d'ailleurs. Mais j'étais impressionné et ravi car j'ai toujours trouvé la capacité de Airbnb à créer une communauté de partage vraiment incroyable. Et donc depuis, l'appartement dont je suis propriétaire a toujours été sur Airbnb pour les moments où je suis en vacances ou simplement absent, car cela me permet d'arrondir les fins de mois. Avec ce supplément de revenus, je peux partir en voyage au Japon en 2016 par exemple, sans doute l'un de mes plus beaux voyages. Donc si vous avez une chambre de libre ou si vous partez en week-end, vous avez sans doute vous aussi un Airbnb. Pour découvrir combien pourrait vous rapporter votre logement, rendez-vous sur airbnb.fr/hôte. C'est airbnb.fr/hôte. H-O-T-E. Allez, place à l'épisode maintenant.
Bonjour, bienvenue sur Volant. Je suis Grégory Pouy et j'essaie à travers ce podcast de mieux comprendre comment la société évolue dans le cadre de la révolution industrielle que nous traversons. En début d'été, j'ai demandé sur le compte Instagram du podcast, Volant Podcast tout collé, si vous ne le suivez pas, c'est pas bien, si vous aviez envie d'entendre quelqu'un en particulier. Et il y a Théophile Bélivier qui m'a demandé si je pouvais recevoir Idriss Aberkane. Alors clairement, je ne le connaissais pas, juste de réputation, mais j'ai fait ce qu'il fallait faire, et voilà, vous avez l'épisode avec Idriss. Donc si vous avez des envies vous aussi, vous me laissez un message par Twitter ou par Instagram, et je ferai ce que je peux pour recevoir la personne. Alors Idriss, il est hyper connu pour le bouquin qu'il a sorti qui s'appelait « Libérez votre cerveau ». Il a eu beaucoup de médias aussi, et il sort un bouquin en octobre qui s'appelle « L'âge de la connaissance », qui est un traité d'écologie positive. Et justement, c'est de ça dont on va parler, d'écologie, de biomimétisme, mais aussi de politique, de décroissance et même d'éducation. Donc surtout, écoutez bien jusqu'à la fin, c'est là où on parle d'éducation. Et en fait, on a enregistré le lendemain de la démission de Nicolas Hulot, donc c'était juste un timing parfait. Alors sans plus attendre, et comme d'hab, allez, Volant, c'est parti. Bonjour à tous, je suis donc avec Idriss Aberkane. Alors Idriss, il est extrêmement connu pour son bouquin sur l'économie de la connaissance.
Et oui, qui sort là, hein, qui sort à l'instant, qui va sortir le 13 septembre.
Donc voilà, et en fait tu fais beaucoup de choses différentes, en particulier autour du biomimétisme, et c'est le sujet qu'on va aborder. Donc,
tout à fait.
Alors je vais pas tout citer parce qu'il y a plein de trucs, mais tu es président de la fondation Bioniria, tu as créé une société qui s'appelle Bionix qui fait ça aussi, une autre société qui s'appelle Creas qui est plutôt sur les logiciels, tu es aussi directeur de la recherche sur Aurea Biotechnologie.
Aurea Biotechnologie.
Et la première question que j'ai, puisque tu as fait ce bouquin sur l'économie de la connaissance, tu as fait énormément de médias sur le sujet, c'est quoi le lien entre économie de la connaissance et biomimétisme? Comment t'en arrives là, en fait?
Alors effectivement, l'idée de plonger le biomimétisme dans l'économie de la connaissance, c'était ma contribution au sujet. La façon dont je vois les choses, c'est que la connaissance, ça vaut plus cher que le pétrole. Bon, ça, c'est un fait, hein, c'est pas une opinion. C'est-à-dire, tu regardes des Facebook, Apple, là, qui est passé à $1 trillion de valorisation boursière, les coquins, hein, donc ils valent 1000 milliards, hein, ça c'est
pas mal.
C'est du méga lourd, et ils vendent de la connaissance. Alors, bon, les gens vont dire, ils vendent des appareils, et ils auront raison, mais le prix de ces appareils, il est très supérieur au prix des matières premières. Les pays qui vendent les matières premières, ils font pas d'argent, tu vois. Apple fait de l'argent parce qu'ils injectent de la connaissance, qui inclut le marketing, hein, qui inclut l'image de marque, la psychologie, etc. Et ce faisant, mais la psychologie, c'est de la connaissance. Et ce qu'Apple, leur grande spécialité, par exemple, c'est de rendre la technologie mignonne. Tu vois, ça, c'est vraiment la spécialité d'Apple, c'est le coup des bords arrondis, etc. C'est de faire en sorte que la techno soit mignonne, qu'elle dise n'aie pas peur. Ça, c'est de la connaissance. Quand t'injectes de la connaissance dans la matière, quelle qu'elle soit, même un diamant, tu vois, un diamant, c'est son prix vient de la connaissance. Tu vas dire non, un diamant c'est rare, pas du tout. Les diamants sont beaucoup moins rares qu'on le croit. Ne serait-ce qu'en Sibérie, par exemple, il y a une énorme mine de diamants. Les réserves de diamants mondiales sont très très supérieures à ce qui est sur le marché. Ce qui fait le prix d'un diamant, c'est la taille, le marketing, etc. Même là, c'est de la connaissance. Donc petit 1, la connaissance ça vaut plus cher que le pétrole. Ça, c'est vraiment un fait. Et petit 2, la nature, c'est le plus gros gisement de connaissances sur Terre, en fait. Nos bibliothèques, nos universités, c'est que dalle à côté de la nature. La nature, ça fait 4 milliards d'années qu'elle stocke de la connaissance, qu'elle la stocke, qu'elle l'applique. Et donc, si tu cherches un baril de connaissances, c'est dans la nature qu'il faut aller.
Mais alors, du coup, quand on parle de biomimétisme, je pense que le premier exemple qui vient... Donc, tu peux peut-être expliquer en deux secondes ce que c'est, peut-être que tu...
Donc, le biomimétisme, c'est juste lire la nature comme source de connaissances. Ouais, c'est donc, c'est s'inspirer de la nature pour innover. Et vraiment, tu peux considérer que la nature, elle a deux dimensions. T'as t'as la dimension matérielle, donc, et t'as la dimension immatériel, exactement comme dans un livre en fait. Dans un livre, tu peux voir la dimension physique. Un livre, c'est un poids, tu peux t'en servir pour caler une armoire, mais c'est pas la meilleure utilisation possible d'un livre. Et un livre, il a des lettres qui sont sa dimension immatérielle. Bon, comme nous, on sait lire, on sait qu'un livre, c'est sa dimension immatérielle qui compte. La nature, on savait pas la lire. Donc on s'était pas rendu compte que sa dimension immatérielle était la plus importante. Mais bon, évidemment, nous on a un cerveau de primate, c'est-à-dire qu'on voit d'abord le monde tangible parce que c'est le monde qu'on peut manger ou qui peut nous manger. Donc l'évolution, elle a d'abord donné notre cerveau d'une capacité attentionnelle pour la dimension matérielle tangible du monde. N'empêche que c'est la dimension immatérielle du monde qui est la plus intéressante. Et ça, ce qui est marrant, c'est que c'est les Indiens qui le savaient. Et donc quand tu exploites la nature d'une façon immatérielle, bah déjà tu la détruis plus, mais en plus tu fais encore plus d'argent.
Parce que c'est ça le truc. Quand on pense biomimétisme, je pense que le premier exemple qui vient à la tête de tout le monde, c'est le Velcro.
Tu vois, ouais, exactement.
Qui a été créé, voilà. Mais le Velcro, c'est du plastique, donc du coup, c'est pas vraiment biomimétisme. Si, quand t'es dans le bio, t'es aussi dans un modèle où tu recycles, ça fonctionne.
Faut monter les marches étape par étape. C'est-à-dire qu'effectivement, tu veux dire merde, le Velcro, c'est du plastique, et t'auras raison, parce que le Velcro, ça date quand même des années 50. Donc, bon. Mais quand, dans l'innovation, faut monter les marches étape par étape. Effectivement, le biomimétisme terminal, c'est quand tu fais tout comme la nature, y compris l'utilisation des déchets. Ça, c'est vrai.
Ça,
le biomimétisme de niveau 3, selon Janine Baigneuse, qui est un peu la mère moderne du biomimétisme, c'est quand effectivement, même dans les procédés industriels, tu recycles tout. Mais ça n'empêche pas de faire des petites innovations, étape par étape, où déjà tu commences à copier la nature. Par exemple, ce mec qui a inventé des gants inspirés des pattes du Gecko, ce petit lézard qui marche sur les murs. Et donc ce type s'appelle Mark Kutkowski à Stanford. Et il a fait des petits gants qui permettent aux forces spéciales de grimper au mur, mais qui ont inspiré aussi un robot d'entretien de la Station Spatiale Internationale. Donc ouais, le biomimétisme, t'en trouves un peu partout. La Tour Eiffel, très peu de gens savent que la Tour Eiffel est bio-inspirée, mais la Tour Eiffel est inspirée de l'os humain. Elle est plus légère que le cylindre d'air qui la contient. Si tu prends le cylindre d'air qui contient la Tour Eiffel, en fait, il est plus lourd à 25 degrés que la tour elle-même, parce que l'ingénieur en chef de Eiffel, Koechlin, s'était inspiré de l'os humain. Il avait étudié à l'école polytechnique de Zurich, qui était déjà la meilleure école polytechnique au monde, et auprès de Kuhlmann, qui était un grand architecte spécialisé dans l'os humain. Et ce faisant, il a pu faire cette structure qui a servi aussi d'inspiration, bien sûr, au squelette de la Statue de la Liberté et à toutes les antennes télé berbone modernes. Donc ouais, le biomimétisme, il y en a un peu partout, en fait.
D'accord. C'est marrant parce que je ne connaissais pas cette histoire sur la... Parce que la Tour Eiffel, à la base, elle devait être détruite.
Être détruite, c'est parce qu'elle a servi d'antenne relais pendant la Première Guerre mondiale. Tu as Guy de Maupassant qui avait fait une pétition pour la faire démonter, comme toute grande innovation.
Et ça, les gens avaient peur, quoi, surtout qu'elle se tombe.
Qu'elle tombe, qu'elle attire la foudre, ce qu'elle faisait très bien, d'ailleurs. Et puis, bien sûr, qu'elle défigure Paris, parce que c'était ça le sujet. Je te dis, cette pétition avec Guy de Maupassant qui disait, voilà, ça, faut arrêter les conneries, c'est moche, etc. La France, ça a toujours été un peu comme ça avec son innovation. Je veux dire, tu regardes un Descartes qui était exilé à Amsterdam, Jean-Jacques Rousseau, etc., Genève, Henri Guillemin à Neuchâtel. T'as eu toute une liste ininterrompue de situations où la France a généralement massacré sa propre innovation. Qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça.
Et alors, du coup, t'as d'autres exemples de biomimétisme. Je me souviens avoir vu une vidéo de toi, je crois, où tu parlais des dauphins, la manière dont ils pêchaient, par exemple.
Ouais, la manière dont ils pêchent avec des filets de bulles. Ça, c'est vraiment très intelligent parce que, en fait, du coup, ça laisse aucun déchet parce que c'est vraiment, ils font remonter des bulles à la surface et ça va